Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccia radio.
Apprendi a faire radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse du Wunderparlement depuis le Parlement européen de Strasbourg en ce mardi 17 janvier 2023 avec Elliot Thierry. Bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Wunderparlement.
Au nom des Verts,
du PPE
et du Conseil européen.
Ça remplace la messe.
C'est la revue de presse.
Eh bien, nous allons vous proposer une revue de presse qui vous raconte, j'espère, le mieux possible, une sélection de ce qui se passe dans ce Parlement et dans ce continent. On va vous parler de combats de chars anglo-germano-français. On va vous parler d'une invasion iranienne à Strasbourg. On va rapprocher la droite et l'extrême droite au Parlement européen. On va se demander si des organisations criminelles sont en train de dévorer l'Europe. On parlera des prochaines élections en Espagne. On se demandera si la guerre contre la drogue est gagnée ou perdue, ou si la voie portugaise est la meilleure à suivre. On va se demander que font les Français et les Allemands en Éthiopie. Eh oui, d'ailleurs, c'est où l'Éthiopie, hein ? Et puis on terminera avec un cargo à voile qui relie l'Europe à la Guyane. On démarre en Ukraine. À toi, Elliot.
Combien de chars vont être donnés à l'Ukraine ? C'est la grande question qui se pose actuellement. On ne sait pas exactement combien de chars la France va-t-elle livrer. Il est question en fait de chars à roues, d'AMX 10 RC, qui sont des chars légers que la France va se séparer, va céder à l'Ukraine. Se pose maintenant en fait la question des chars Leclerc, ces chars lourds que l'on voit défiler tous les ans sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Mais des pays nous ont devancés, notamment le Royaume-Uni qui a annoncé récemment la livraison de 14 chars de conception britannique, des chars Challenger 2, qui vont potentiellement, on ne sait pas, permettre à l'Ukraine de résister à l'invasion russe. Après, on peut se poser la question si 14 chars suffiront, mais ça suffit à mettre la pression sur la France et sur l'Allemagne pour qu'ils eux-mêmes cèdent des chars lourds de leur propre fabrication. Alors pourquoi est-ce que la France tergiverse pour ses chars Leclerc alors qu'elle a annoncé en grande pompe la livraison d'AMX 10 RC ? Ça se retrouve finalement dans les conceptions techniques et numériques. Le char Leclerc en France, c'est environ 220 unités. Il y a 200 unités en réserve. 406 chars ont été livrés à la France au début des années 2000. Il n'en reste plus que 222. Sur ces 222, les 200 de réserve, en fait, servent à récupérer de pièces de rechange. Si on en livre une unité, ça réduira le potentiel des armées françaises qui sont en fait une armée échantillonnaire. Les Britanniques, eux, peuvent se permettre de livrer des chars britanniques car ils ont décidé de réduire la voilure de leur armée de terre.
Alors que nous, on doit toujours s'attendre à une invasion allemande et pour ça, il faut faire attention à garder suffisamment de chars.
Et oui, mais les Allemands aussi sont sous pression. Les Allemands sont appelés à livrer des chars Léopard 2 qui sont considérés comme les meilleurs chars du monde, si ce n'est déjà d'Europe. Pour faire face à la Russie, l'Ukraine en rêve, l'Ukraine en demande. La pression se fait de plus en plus forte sur le chancelier Olaf Scholz, qui est toujours assez réticent à livrer des chars, même si quelques avancées se sont faites récemment, notamment la Pologne, qui a demandé à l'Allemagne de pouvoir envoyer des unités de chars Léopard 2 de sa propre armée. 12 000 Iraniens à Strasbourg. C'est toi, Jean-Luc ?
Oui, la pression, elle était là, elle était devant le Parlement européen à Strasbourg le lundi 16 janvier 2023. 12 000 Iraniens, c'est à peu près la population de Kingersheim ou d'Ilzac, et ne parlons pas de Bervillers, la capitale de M2A, Mulhouse, Alsace, agglomération. Ils étaient 12 000, selon la police, aucun syndicat n'a contredit ces chiffres, venus de toute l'Europe, et ils ont manifesté pour demander à l'Union européenne, par exemple, d'inscrire les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, sur la liste noire des organisations terroristes, hein, comme les États-Unis l'ont fait. Alors, heureusement, le terrorisme n'a pas de définition légale, donc on peut mettre n'importe qui comme terroriste. Est-ce que ça va suivre ou pas ? En tout cas, la présidente du Parlement, Roberta Metsola, a accueilli avec bienveillance ces manifestations et les a assuré du soutien de l'Union européenne. L'Europe est avec vous. Nous pousserons la communauté internationale à répondre avec force à la terreur qui a été déclenchée par le régime sur le peuple dans les rues d'Iran. Peut-être avec des chars français que la France leur a vendus il n'y a pas si longtemps. C'était dans le journal L'Alsace, dans Mediapart et dans plein d'autres de vos journaux. Parlement européen, c'est baston politique, mais on se rapproche par derrière. Qui donc se rapproche de qui, Elliot ?
Y a-t-il une lune de miel entre Manfred Weber et Giorgia Meloni ? La question se pose. Le journal pro-européen Euractiv nous parle, il y a quelques semaines de cela, d'un rapprochement possible entre le PPE, le Parti Populaire Européen, plus grand parti du Parlement européen depuis plusieurs années maintenant, et des conservateurs réformistes européens, qui sont le parti de Giorgia Meloni en Europe. Donc on les retrouve Fratelli d'Italia chez le PPE, qui est un parti de coalition en Italie avec Giorgia Meloni et la Lega de Matteo Salvini. Alors, y aura-t-il un rapprochement extrême droite, centre-droit ou plutôt démocratie chrétienne ? La question se pose. Le président du groupe parlementaire du PPE, donc du Parti Populaire Européen, serait en tout cas favorable face à plusieurs déconvenues de la droite en Europe ces dernières années, face à la montée du populisme d'extrême droite, de s'allier avec potentiellement le parti de Giorgia Meloni ou d'autres. Sauf que ça coince, notamment en Allemagne avec la CSU et la CDU, les chrétiens démocrates, donc, qui ont fait savoir qu'ils s'opposeraient totalement à une alliance entre les deux partis au niveau européen et qui ont d'ailleurs mal pris le soutien de Manfred Weber à l'alliance italienne qu'on dit de centre-droit mais qui est objectivement d'extrême droite. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On se le demande. Et la question reste ouverte. Le PiS aussi, le parti Droit et Justice en Pologne, serait potentiellement membre de cette alliance, sauf que le PPE manque de chance. Dans le PPE, il y a l'ancien parti Plateforme Civique de l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk, qui lui aussi refuse de s'allier avec le PiS, et le PiS refuse de s'allier avec Plateforme Civique. Alors ça coince un peu de tous les côtés. On ne sait pas trop comment ça va tourner, mais on verra.
Ça risque tout simplement de continuer comme avant. Ça fait des années et des années que la droite et les socialistes codirigent le Parlement européen. Et ça peut durer encore pendant des siècles et des siècles.
Wunderparlement
in Strasbourg.
Un peu comme la corruption en Europe, c'est ce qui fait l'actualité, bien sûr, évidemment.
Qatargate.
À Maroc-gate, etc. Mediapart est allé rencontrer le juge belge chargé de l'instruction du scandale de corruption qui ébranle le Parlement. Michel Claeys alerte sur la criminalité financière en Europe devenue incontrôlable. Il faut alerter, plaide-t-il, sur le dérèglement bouleversement économique qu'elle entraîne. Mediapart demande, vous dites que l'argent sale est partout dans l'économie européenne, est-ce qu'il y en a plus de corruption aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Oui, il y a une aggravation du phénomène. Le système de fonctionnement des organisations criminelles est aujourd'hui démultiplié par les nouvelles technologies. Le deuxième phénomène, c'est l'énorme fortune qui se crée sur la base du produit de ces trafics. On prend l'exemple de l'Italie, gangrénée par les mafias, gorgées de pognon, qui rachètent toutes les entreprises qui s'effondrent les unes derrière les autres. D'après le juge belge, 50% de l'économie est actuellement détenue en Italie par les mafias de type Ngrata ou Cosa Nostra, etc. Donc voilà, la corruption, un sujet d'actualité qui va continuer à faire vivre la presse, peut-être même en Espagne.
Oui, peut-être même en Espagne, qui, elle aussi, va voir arriver des élections. Le Parti socialiste de Pedro Sanchez, l'actuel Premier ministre espagnol, fait face à la crise de l'énergie et sort à peine de la crise sanitaire et des effets qui lui ont succédé. Le Parti socialiste en Espagne est encore en bonne position et même en meilleure santé que le Parti socialiste français.
C'est pas difficile.
Oui, c'est pas très difficile, mais en même temps, on creuse fort. Face à lui se retrouve le Parti populaire espagnol, qui lui aussi fait partie du PPE, d'Alberto Núñez Feijóo, qui lui reproche au gouvernement socialiste allié avec la gauche espagnole, d'avoir mal géré les deniers publics et d'avoir menti sur la crise catalane en proposant la suppression du crime de sédition. Alors qu'est-ce que c'est le crime de sédition ? C'est par exemple Carles Puigdemont, l'ancien président catalan, qui a proposé, en dehors de toute légalité, un référendum pour que la Catalogne en sorte. Les deux partis, en fait, PP et Parti Socialiste Espagnol, sont au coude à coude dans les sondages. Pedro Sanchez, lui, se défend d'avoir mis en place plusieurs mesures d'aide en faveur des plus pauvres, des plus modestes, notamment avec le mécanisme ibérique que l'on envie beaucoup en France, malgré une situation différente, ce mécanisme ibérique qui permet à l'Espagne de contrôler relativement les prix de l'énergie. Maintenant, la guerre contre la drogue ou la voix portugaise, qu'est-ce que c'est, Jean-Luc ? On reste en Ibérie.
Voilà, restons sur la péninsule ibérique avec le modèle portugais qui fait des émules. C'est France 24 qui nous raconte qu'en matière de lutte contre la toxicomanie, tous les regards se tournent vers le Portugal. Rappelons que le Portugal a dépénalisé l'ensemble des drogues en 2001 et que ça va beaucoup mieux depuis. La consommation de drogues diminue à l'heure où le port d'Anvers en Belgique vient d'exploser le record de saisie de cocaïne.
Devant Rotterdam.
Plus de 100 tonnes, Rotterdam aussi, mais Anvers, je crois, détient et en tête du hit parade avec 100 tonnes de cocaïne confisquées en 2022. On se demande si il faut continuer comme ça. Est-ce que la guerre contre la drogue n'est pas tout simplement perdue? L'Allemagne a programmé la légalisation du cannabis pour cette année 2023 ou 2024. De plus en plus de pays légalisent, d'autres dépénalisent. Est-ce qu'il faut continuer, comme la France, à avoir la politique la plus répressive en matière de drogue, avec les consommateurs qui sont champions d'Europe, voire du monde, de consommation de cannabis, par exemple. Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on regarde la consommation continuer d'augmenter? C'est toute la question qu'on peut se poser. Mais est-ce qu'on fume des joints en Éthiopie? Je me le demande.
Moi aussi, je me le demande.
Wunderparlement.
In Strasbourg.
Les ministres des Affaires étrangères français et allemands sont allés conjointement en Éthiopie pour 48 heures dans la capitale Addis Abeba afin de renouer les liens avec le gouvernement éthiopien qui était un peu distendu depuis la guerre au Tigré. Et oui, encore une guerre qui fait rage pas si loin de chez nous, mais quand même assez loin. Enfin, qui pourrait nous toucher finalement, parce que la Corne de l'Afrique est un endroit stratégique. Alors, c'est aussi symbolique cette visite, réaffirmer l'union, enfin l'amitié entre la France et l'Allemagne, et puis montrer qu'une Europe unie face à d'autres puissances qui, eux, n'ont pas rechigné à continuer d'avoir des relations avec Addis Abeba, notamment lors des combats les plus féroces au Tigré qui ont vu plusieurs exactions se produire. L'Europe se montre unie, essaye de relancer la coopération et essaye surtout de faire face aux pouvoirs russes et chinois. Chinois qui sont déjà très bien installés en Éthiopie, mais les pouvoirs russes qui, eux aussi, cherchent à continuer, voire à mettre en place une coopération renforcée dans la Corne de l'Afrique, qui voit aussi passer pas mal de nos cargos. Alors, la France et l'Allemagne vont-elles réussir? En tout cas, mieux que désunis. La dernière fois qu'ils y étaient allés, on a bien vu que la désunion ne fonctionnait pas. Et puis, c'est aussi pour montrer une union face à la Chine, mais aussi montrer l'union de la France et l'Allemagne renouvelée pour le prochain anniversaire du traité de l'Élysée. Et tout cela, c'est RFI qui nous le dit dans une revue, dans un article de presse qui date d'il y a quelques jours. Jean-Luc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cargo à voile à Kourou ?
Oui, on termine avec une jolie histoire. Hein, donc, c'est Ariane 6. La fusée qui généralement n'arrive pas à décoller ou se crache juste après. Hein, mais en tout cas, il faut la transporter parce qu'on la fabrique en Europe. Il faut la transporter en Guyane, à Kourou. Et pour ça, les Européens ont construit un magnifique cargo à voile qui s'appelle Canopée, fruit d'une coopération européenne qui va diviser les coûts de transport par deux, nous annonce le Figaro. Alors, il y a encore un peu de gasoil, mais pas de fuel lourd qui pue et qui pollue énormément. Hein, il y a des voiles immenses qui permettent d'assurer l'énergie à hauteur de 15 à 40% de l'ensemble de la consommation. Et puis surtout, c'est mignon comme tout, un cargo de plus de 120 mètres de long, de 22 mètres de large, qui pèse plus de 10 000 tonnes et qui avance parfois juste à la force du vent. Comme c'est pas beau, hein, l'aérospatiale a la mode canopée avec ce cargo géant à voile. Voilà, c'était la fin.
Oui, déjà la fin de cette revue de presse qui fut courte mais intense. On espère vous revoir très bientôt. Et puis cette revue de presse, elle était bien complète quand même. On a parlé de chars, de visites en Éthiopie, d'élections, de cargo à voile et de bien d'autres choses. Merci à Jean-Luc Vertenschlag d'avoir participé avec moi à cette revue de presse et à Bertrand Vigier d'être à la technique et d'être bien sympa avec nous.
Et merci Elliot Thierry d'avoir animé cette revue de presse en direct ou presque du Parlement européen. À bientôt dans le Wunder Parlement pour de nouvelles aventures.
Wunder Parlement.
Wunder Parlement.
Yes, do you have my voice?
Wunder Parlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccie radio.
Apprendre à faire radio.
Lire radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi tu peux venir.